Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans cette toute dernière émission de la saison de l'Imaginoire à l'écoute des familles. La bonne nouvelle, c'est que l'Imaginoire reprendra du service à la rentrée prochaine pour une nouvelle saison radio. Bon, comme c'est la dernière, avant la trêve estivale, je vais faire comme si vous écoutiez pour la toute première fois cette émission. L'Imaginoire, qu'est-ce que c'est ? L'Imaginoire est une émission radio mensuelle diffusée sur une vingtaine de radios locales. Elle est produite par l'association Résonance. Son but est de co-construire les émissions avec les participants. Son ambition est de porter la voix de familles dont l'enfant, le parent ou les parents sont touchés par la déficience visuelle. Vaste sujet, vaste débat. Mais émission éminemment familiale. Et tout au long de ces mois, des familles, nous en avons rencontré. Chacune avait sa propre histoire. Ses peines, bien sûr, mais aussi ses joies, son énergie et sa détermination. Alors, des familles, on espère en rencontrer d'autres, plein d'autres même, à l'avenir. Et d'ailleurs, d'avenir, c'est de ça dont il va être question dans l'émission d'aujourd'hui. Je vous explique. Il y a peu, on a organisé un repas avec les familles pour partager un moment convivial. Vous connaissez le principe, chacun apporte un bout de salé, un bout de sucré, on met ça en commun et on refait le monde. Bien sûr, l'idée derrière tout ça était de profiter de ce moment collectif pour réfléchir ensemble à la suite à donner à ce projet. Et c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui. Une petite balade sonore parsemée d'extraits du débat qui nous a animés et qui vous donnera, je pense, un petit peu l'idée de ce que nous allons vous proposer tout au long de la saison prochaine. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne balade.
C'est aussi un morceau de Alice Cooper.
Allez, c'est Augustin qui ouvre le bal, puis vous entendrez la voix de Thierry, de Véronique, de Marie et de votre humble serviteur occasionnellement.
Et pour les projets, enfin pour la quatrième saison donc, peut-être, bah, comme en parlait Seb, enrichir le. La page avec des podcasts, des petites séries audio, des choses comme ça.
On se disait on entendrait des extraits dans l'émission et on aurait la version intégrale en écoute sur la page de podcast, quoi, en gros. Et toi, t'avais des idées de personnes à interviewer ?
Bah, moi, j'avais pensé aux patrons d'entreprise. Déjà parce que j'en connais. Il y a un ancien ami de mes parents, enfin un ami de mes parents, qui dirigeait une société. Enfin, qui dirige une société. Et puis, comme je lui ai parlé, il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré de... Enfin, qu'il n'avait jamais rencontré ce genre de problématique, de handicap visuel, etc. Donc, peut-être une série d'interviews de différents directeurs de société.
Mais du coup, Thierry, toi, ça rejoint ton activité aussi d'insertion de personnes en situation de handicap dans le milieu du travail. Est-ce qu'il y aura une idée à gratter, puisque Augustin, il a la possibilité d'organiser et d'avoir sous le coude au moins deux ou trois boss d'entreprise ?
Bah oui, enfin, oui, c'est sûr. Parce que tout ce qui peut sensibiliser le monde de l'entreprise à l'emploi, à l'accès à l'emploi des déficients visuels, il faut le faire. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'insertion professionnelle autour du handicap, notamment du handicap visuel. J'ai fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle les aménagements de postes de travail, donc pour permettre aux déficients visuels de pouvoir travailler en entreprise. Donc tout ce qui peut mobiliser les entreprises à faciliter l'accès à l'emploi des déficients visuels, et effectivement, il faut le faire.
Est-ce que ça matche avec ton idée à toi, Gus ?
Bah oui.
Ouais.
Oui, plutôt. Donc, dans les questions que je pourrais poser, la façon dont ils pourraient insérer dans leur société, des différents handicaps, et notamment le handicap visuel, parce que c'est ce qui nous intéresse à l'imaginoire. Mais voilà.
Oui, parce que la plupart des employeurs, ce qu'il faut savoir, c'est pas qu'ils, c'est que ils connaissent très très mal le handicap visuel, et donc il y a des préjugés qui peuvent, ils peuvent avoir des préjugés ou une méconnaissance, simplement les préjugés liés à une conséquence d'une méconnaissance de, des conséquences du handicap visuel, et donc une réticence à embaucher ce type de public, alors qu'il y a un grand nombre de déficients visuels aujourd'hui qui accèdent à un grand nombre de métiers. Qui peuvent, l'offre de formation accessible aux déficients visuels est de plus en plus élargie. Il y a un grand nombre de déficients visuels qui suivent des cursus universitaires, des études supérieures, et donc ils peuvent, qui sont en capacité de travailler. Mais c'est vrai qu'il y a une, il y a dans le monde de l'entreprise, c'est embaucher un aveugle, ben ça fait peur.
Vous êtes toujours connecté à l'imaginoire, à l'écoute des familles. Dernière émission de la saison, on prépare la saison prochaine, on vous parle d'avenir.
Elle est venue qu'une fois. Alors ça marche pas.
Dommage.
Tu vas ou j'y vais ? Non, mais moi, c'est juste pour rebondir sur ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, c'est que je pense que oui, c'est une bonne idée d'interviewer des gens qui ont réussi malgré leur handicap visuel, pour montrer justement que
c'est possible.
Que c'est possible, voilà. Qu'il n'y a pas seulement de barrières et que, voilà, avec les aides, avec les infos qu'on peut avoir, c'est bien de montrer les choses positives.
Ouais.
Voilà. Donc tout ce qui peut se faire malgré le handicap visuel. Il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de difficultés, mais certaines personnes y arrivent parce qu'elles ont les bonnes infos, parce qu'elles sont bien entourées par les bonnes personnes. Et ça, je trouve ça chouette et je pense que ça peut aider beaucoup de déficients visuels à se lancer, justement.
Parce que quand, je pense que ce qui est important aussi, parce qu'il y a Véronique, quoi, qui est maman d'un enfant déficient visuel, c'est, comment dire, je pense que c'est pas la même chose quand on vit le handicap ou quand on est parent, quoi, d'un enfant handicapé. Quoi, je sais pas, Véronique, moi je sais pas, c'est mon avis, j'ai presque l'impression que c'est presque plus facile, enfin, plus facile, c'est peut-être pas le mot à dire.
Moins difficile.
Non, mais c'est... Quand on le vit, on est confronté à ça, on n'a pas le choix. Voilà, on est obligé d'affronter,
de faire avec.
Mais pour l'entourage, l'environnement, les parents, je ne sais pas comment toi tu le ressens, Véronique. Mais...
C'est. Oui, il y a eu un moment difficile, le moment, l'appréhension du syndrome avec le fait de savoir vers quoi il allait. Il y a eu 2 ans vraiment où tu te dis qu'est-ce qui va se passer, comment je vais gérer ça, comment on va accompagner ça, qu'est-ce qui va devenir. Tu culpabilises en plus, ouais, ouais. Pourquoi tu sais pas, mais en fait tu culpabilises quand même. Et puis tu sais pas ce qu'il voit, tu sais pas ce qu'il ressent, tu sais pas comment il vit les choses. Et puis moi, c'est un peu particulier parce que vous tous, vous êtes déficients visuels, vous n'avez pas de pathologie associée, en tout cas de déficience intellectuelle comme peut l'avoir mon fils. Donc moi, en plus, mon petit Maël à moi, il ne m'explique pas. Pour lui, c'est sa normalité. Il me dit « je ne vois pas », mais c'est normal. Oui. Donc, après, le fait, moi, d'avoir pris la présidence de l'asso, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis dans le combat. Donc en fait, le fait d'être présidente d'asso me donne une énergie... ouais, un petit pouvoir d'être maître de quelque chose, de me dire, même si j'arrive à rien, même si on n'arrive pas à trouver une solution, au moins j'aurais essayé.
On a essayé de faire bouger les choses.
Et j'aurais essayé de faire. Et le fait d'être dans cette action-là fait que du coup je le vis moins mal qu'avant. Après, ça dépend aussi peut-être des personnalités. C'est vrai que moi j'ai tendance à être beaucoup dans le côté positif et à me dire, quand il me dit je vois pas, je lui dis pas, moi non plus, écoute, il fait pas bien, il fait un peu sombre, là je vois pas bien, je te prends par le bras et on y va. Mon mari par exemple est plus dans le déni, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, parce qu'il est beaucoup plus sensible et que quand Maël lui dit je vois pas, c'est ouf, c'est dur. Donc c'est vrai qu'après c'est, voilà, le parent va réagir un peu en fonction de ses propres émotions, mais c'est vrai que pour rebondir un peu, donc moi c'est un peu différent parce qu'il y a cette déficience intellectuelle, donc je ne suis pas dans la projection d'un emploi où je sais très bien que Mel ne travaillera jamais. Si déjà il avait travaillé en ESAT, on sera content, mais enfin si ça lui plaît, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'outils, c'est-à-dire que je me mets même à la place d'autres adhérents par exemple de mon asso qui ne sont pas déficients intellectuels, parce qu'ils ne le sont pas tous. Il n'y a pas d'outils, il n'y a rien, et il y a ce manque d'information qui est vraiment, on en parle souvent, on se retrouve avec le médecin vous dit, bah voilà, vous êtes atteint de ça, ou ça va donner ça, bah dans quelques années vous serez comme ça, ou vous ne verrez plus. Alors déjà vous prenez l'info sous le bras, puis vous rentrez chez vous, et puis après il faut avancer. Et en règle générale, quand on avance, c'est souvent tout seul avec son ordi, quoi. Et puis on va chercher de l'info un peu partout, on va se dire, ah bah je vais aller où, faut que j'aille taper à quelle porte, quelle association serait la mieux, qui peut me donner de l'information, à quoi j'ai droit, est-ce que d'autres gens sont comme moi, est-ce qu'ils ont eu accès à telle ou telle chose, que dois-je faire. Et il n'y a rien qui existe en fait. C'est vrai que pour les déficients visuels, il n'y a pas grand chose. Il existe des trucs, mais c'est spartiel, enfin il faut vraiment les chercher un peu partout, c'est sporadique, quoi.
Ouais, puis je pense aussi, ce qui est compliqué peut-être aussi pour le grand public à comprendre, c'est que pour le grand public, c'est soit on n'y voit pas, soit on est malvoyant, éventuellement, bon, on arrive à peu près à imaginer, mais sans vraiment, soit on y voit, quoi. Oui, et quand on n'y voit pas, on met des lunettes, on devrait y voir.
Voilà,
c'est vrai.
Alors que chaque situation est singulière, quoi, parce que même quelqu'un qui a avec deux pathologies équivalentes, chaque personne va réagir différemment. Donc c'est pour ça que
selon le temps, selon la lumière, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que tu peux y voir très bien dans une pièce, et dans une autre pièce il n'y a pas assez de lumière, tu ne vois rien du tout, quoi. C'est difficile pour l'entourage de comprendre.
Et moi ça m'a vraiment soulagée tout ça, enfin, toi, d'être juste pouvoir être naturel et pas être en train de torturer le cerveau pour surtout pas être déplacé. Voilà, bon, après je peux l'être.
Bon, après, tous les handicaps visuels n'ont pas forcément autant d'humour que nous. Ça, c'est notre histoire.
Oui, mais.
Pas du handicapé visuel susceptible, en
fait. Voilà, oui, enfin, peu m'importe. Enfin, tu vois, je veux dire. Tu vois,
voilà. Oui, mais tu vois, maintenant.
Ça, à la limite. Peu importe.
C'est dans un café, une fois, j'avais dit, mon fils est déficient visuel, et elle t'avait dit, tu veux un chocolat?
Mais ça, souvent dans les restos, elle donne des cartes, forcément. Mais alors, le pire, c'est qu'il parle à l'autre personne.
Vous êtes toujours en train d'écouter l'émission de radio L'Imaginoire, à l'écoute des familles. On retourne au débat.
Ce que j'aime pas, moi, des fois, dans les émissions, quand ça parle du handicap, bon, dans l'émission grand public, c'est souvent, bon, c'est rapide, mais ils veulent toujours montrer quelque chose de très positif. Donc, c'est toujours des personnes qui interviennent, t'as l'impression que c'est Superman, Superwoman.
Oui.
Et moi, je trouve, quand tu vis le handicap, et surtout que tu le subis à un moment donné, que tu prends ça en pleine gueule, ou pour les familles, je trouve que c'est pas forcément productif, quoi. Parce que c'est ça minore la réalité, quoi.
Oui, il faut montrer les difficultés.
Voilà,
aussi,
voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut pas tomber dans cet écueil-là, quoi. Il faut aussi. C'est pour ça qu'il faut que les personnes qui vont intervenir, les témoignages, voilà, ils jouent vraiment le jeu, quoi. Si à un moment donné, ils ont envie de.
Oui, que ce soit pas le monde de oui, quoi.
De
oui,
un coup de gueule. Voilà, parce que c'est. Parce que voilà, c'est quand même. C'est. Je pense souvent à Philippe Croizon, là, qui a perdu les quatre membres.
Oui.
Et souvent, j'écoutais, c'est super comme ce qu'il fait, tout ça. Je suis admiratif de son parcours, de sa personnalité, tout ça. Puis j'ai dit, mais c'est quand même, c'est pas représentatif. Et je dis, mais c'est pas possible qu'il soit toujours comme ça, quoi. Côté battant, tout ça. Puis une fois, j'avais écouté une émission à la radio où c'était plus long, c'était sur une heure ou deux, une heure et demie. Il avait pris le temps de parler, tout ça. Et c'était vraiment. Et on se rendait compte qu'en fait, il avait mis 10 ans après son accident. Avant de vraiment sortir la tête hors de l'eau, sa femme était partie, voilà, que c'était, ça avait fait exploser son couple, et on se rendait compte, et dans son discours là, c'était, ça me parlait, quoi. J'ai dit voilà, on se rendait compte de toutes les difficultés et que tous les jours c'était pas facile, voilà, que des fois il en avait, voilà, c'est non mais ras-le-bol, mais c'est vrai.
Oui, marre.
C'est marre, c'est bien. Non,
marre, oui. Il en avait marre, c'est ça.
Il en avait marre, quoi. Non mais c'est voilà, je pense que c'est important aussi parce que c'est voilà, parce qu'on n'est pas tous égaux, on va pas tous au même rythme, et on n'a pas tous le même environnement familial, social, ça, c'est des facteurs qui jouent aussi dans la...
Bien sûr, moi, j'avais le but de représenter le plus fidèlement possible le monde de la déficience visuelle. Donc, pas de faire une émission hyper positive, avec que des bâtons, enfin, sur les ondes en tout cas, et non, vraiment, un reflet de la réalité, entre guillemets.
Ouais, parce que c'est pas toujours facile, même si tu t'en sors et que tu fais plein de choses et que tu t'es adapté à ton handicap parce que voilà, t'as un caractère qui fait qu'une personnalité qui fait que tu avances et que t'es positif, ça n'empêche que ça doit quand même pas être facile tous les jours et qu'il y a quand même des adaptations à faire. Tu parlais de tes copains l'autre fois. Ou...
Bah, c'est pour ça, oui, c'est pour ça que on pourrait parler de ça dans l'émission.
Mmh. Ah, oui.
De la peine qu'on eut. Enfin. De la peine. Je peux pas décrire le sentiment qu'ont éprouvé mes parents quand j'ai perdu la vue, parce que, bah, un, je l'ai pas vécu, deux, j'avais 5 ans, j'étais petit, voire très petit, et je l'ai même pas senti à travers eux. Enfin, je l'ai même pas senti par empathie, quoi. Mais oui, on pourrait parler de ça.
Ouais, c'est cette annonce-là. C'est sûr que c'est un... Pour les parents, il y a un deuil à faire de l'enfant fin du parcours classique. C'est-à-dire que tu sais que de toute façon, après, tout le reste, ça sera différent. Ça sera une adaptation ou un combat ou plein de choses. Mais ça ne sera pas, comme tu lis dans les bouquins, papa, maman ont un enfant, c'est mignon, c'est joli, hop, 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 allez, tu fais collège, lycée, tu auras ton bac, tu auras ton appartement. Non, tout est mis par terre et tu refais différemment et tu t'adaptes à tout et en fonction de ton petit, quoi.
Mais ce qu'il faut savoir aussi, Véronique, c'est pour ça que je mets toujours moi en perspective, c'est que les S3S, si ça existe, c'est parce qu'il y a des parents d'enfants déficients visuels qui sont battus pour
c'est
le faire.
Ça,
c'est pas sorti, c'est pas.
Chapeau, non, ça
j'imagine. Par rapport à justement des problématiques qui n'existaient pas. Donc,
mais tout, regarde l'ADAPEI. L'ADAPEI, à la base, c'est des parents qui ont émergé ça pour leurs enfants déficients intellectuels, quoi. Ça existait pas.
Comme là, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait là? On a essayé de faire bouger les choses à notre niveau.
Ouais.
On est déficient visuel, on n'est pas professionnel, on n'est rien.
C'est ça.
Et voilà.
Mais c'est ceux qui sont concernés qui font bouger les choses.
Ouais,
parce qu'on a une vraie problématique.
Ouais.
Qu'on a conscience, parce qu'en fait, le monde des voyants n'ont pas forcément conscience de nos problèmes au quotidien.
Mais alors, ce qui est normal en même temps.
Oui.
Parce que quand
t'es pas concerné.
Bah ouais, moi quand j'y voyais, je.
Bah, tu te posais pas la question de savoir comment on voyait un non-voyant, quoi. Enfin, comment il appréhendait la vie.
C'est.
Du coup, on cut. Du coup, j'ai cuté. J'ai arrêté l'enregistrement. Parce qu'il est grand temps maintenant de faire une petite récap. On a donc parlé d'enrichir la page des podcasts, de contenu inédit. Et oui, lorsque vous faites une émission de radio de 25 minutes, en général, il vous reste quand même des enregistrements en rab. Autant les rendre accessibles. Et pour ça, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur notre page mixcloud.com/l'imaginoir. L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. On a aussi parlé d'interviewer des patrons d'entreprise. Et c'est Augustin, dit Gus, 11 ans, qui s'en chargera. Ce qui nous permettra de parler de l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. De plus, globalement, sensibiliser le monde de l'entreprise au handicap. Et encore plus largement, je dirais, on l'espère, parce que c'est le but de sensibiliser le grand public au monde de l'handicap. On a aussi parlé de l'envie de réaliser des portraits de déficients visuels qui ont réussi leur parcours professionnel, sans pour autant en voiler les difficultés. Alors, on parlera de combat, d'histoire de famille et d'un mélange des deux. Une autre info que je vous glisse là, c'est que tout au long de la saison prochaine, nous suivrons au plus proche l'intégration d'Augustin en 6e. Et on retrouvera Enzo, que l'on a rencontré dans l'émission d'avril dernier, qui a aujourd'hui 21 ans et qui se lance dans la production musicale. Et puis on a d'autres idées. Vous verrez bien. Alors, avant de clôturer cette émission, je laisse la parole à Thierry, avec qui je réalise, en étroite collaboration, ces émissions, et qui voulait rajouter quelque chose. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous dire au revoir.
Pour me présenter rapidement, donc je suis Thierry Sabatier, j'ai 55 ans, je suis malvoyant. J'ai eu le plaisir et le bonheur de participer à toutes les émissions d'Imaginoir, à l'écoute des familles. Donc j'avais la double casquette dans cette aventure, c'est-à-dire que j'étais intervieweur, auditeur, et même si je suis malvoyant et que j'ai l'impression, le sentiment de bien connaître la problématique visuelle, j'ai aussi appris beaucoup de choses à travers tous ces témoignages qui ont été pour moi très, très enrichissants. Alors si je devais retenir peut-être une émission qui m'a le plus touché, c'est peut-être l'émission où j'allais interviewer un couple de non-voyants, Stéphanie et Samy, qui étaient parents de deux enfants, des deux enfants voyants. Pour moi, ça a été vraiment très instructif et très enthousiasmant de voir qu'à travers leurs témoignages, leur vécu de parents et de non-voyants, ça, voilà, c'était, je me suis dit, ben oui, effectivement, on peut être aveugle et avoir une vie, entre guillemets, normale, comme n'importe quel autre parent, parce que j'ai trouvé que leur témoignage était plein de simplicité, d'évidence, et était très positif, quoi, très, c'est même pas positif le terme, c'est vivifiant. Voilà.
Et voilà, c'est fini. J'ai 50 secondes pour remercier Cassandre, June, Augustin, Agnès, Laurent, Adrien, Véronique, Maëlle, Marine, Cora, Daniele, Élise, Cécile, Yaël, Audrey, Marie, Jacques, Stéphanie, Samy, Enzo, Maëline, Nicolas, l'équipe du S3AS et Thierry. Retrouvez-nous sur le facebook.com/l'imaginoir, écoutez les podcasts sur le mixcloud.com/l'imaginoir, contactez-nous à l'imaginoir@lilo.org. Nous sommes ouverts à rencontrer de nouvelles familles touchées par la déficience visuelle, contactez-nous. Dernière info, l'imaginoir à l'écoute des familles est soutenu par la CAF Drôme et la fondation BP Aura. À très bientôt.